Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je suis porté.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, nous sommes le mercredi 11 septembre. Bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour Manu, bonjour à tous.
Et bonjour Manu.
Bonjour à tous.
C'est Cinérama qui débute avec, nous sommes au mois de septembre. Ça veut dire que bientôt, le mois d'octobre, est l'arrivée des films de Cannes. Et moi, je pense que ça commence à bien bouger au niveau des salles de cinéma. Il y a de plus en plus de films. On va faire une sorte de petit débat, en tout cas en fin d'émission, sur le dernier film d'Alessandro Jodorowsky, La danza della realidad. C'est bien ça. Et sinon, de quoi allons-nous parler?
Alors moi, je vais vous parler du nouveau film de Serge Bozon qui s'appelle Tip Top.
Eh bien moi, je vais évoquer donc un film d'horreur qui s'appelle You Are Next, un petit slasher, voilà.
Et puis on pourra écouter aussi Albert Dupontel qui était là hier pour présenter son film 9 mois ferme, mais qui lui sortira mi-octobre, donc on va pas en parler tout de suite du film précisément, mais il se trouve qu'il était plutôt bavard hier et plutôt
de bonne humeur,
plutôt agréable, voilà, en casquette et lunettes noires, et donc on l'écoutera parler du cinéma, non seulement de son cinéma mais aussi de il a sorti quelques petites anecdotes notamment sur Scorsese et d'autres, voilà, on écoutera ça pour se détendre un peu. Et puis si j'ai le temps, je vous parlerai de Chaque jour que Dieu fait, comédie de Paolo Virzi. C'est Cinérama.
Cinérama. Cinérama sur Divergence FM.
You Are Next, donc, qui aurait pu d'ailleurs s'appeler une affaire de famille, mais bon, c'était déjà pris. Donc, réunis pour l'anniversaire de mariage des parents, la riche famille des Davison vont être confrontés à un groupe de tueurs masqués, armés entre autres d'arbalètes. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, grain de sable inévitable un peu pour booster un genre tout de même moribond, c'est l'intervention d'Erin, la pièce rapportée qui va user de techniques surprenantes pour déjouer ses adversaires.
Je tiens à ce que vous sachiez à quel point cela nous touche que vous soyez tous là.
Notre Père Tout-Puissant, nous te remercions pour ta nourriture. Aide-nous à accomplir notre rôle.
Amen.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui nous arrive?
Je vois personne.
Poussez-vous, reculez!
C'était pas une attaque au hasard. Il nous observait depuis des jours.
Véritable bête de festival, You Are Next traîne en fait une réputation sulfureuse de bombe à faire peur, auréolée ici et là de quelques prix dans les festivals. Mais autant l'avouer tout de suite, le résultat n'est pas à la hauteur des espérances en fait. En jouant la carte facile et cynique du second degré, le film d'Adam Wingrand, dont il paraît que c'est le cinquième long métrage, je n'avais jamais entendu parler. Donc ce film évacue rapidement en fait toute tension. Le cinéma horrifique contemporain a vraiment du mal à garder son sérieux. Et là, c'est vraiment dommage, car des tueurs à tête de lapin qui assiègent une villa auraient pu donner l'occasion aux cinéastes de jouer sur l'effroi, les rapports tendus entre les personnages, et surtout, ce qui moi m'intéresse beaucoup dans le cinéma d'horreur, c'est la topographie des lieux. On imagine ce que Carpenter aurait pu faire d'un tel argument, une œuvre minimaliste et abstraite, un monument de terreur primaire. Mais à mon avis, peu confiant dans son pitch de départ, le réalisateur préfère décrire une famille en tout point détestable, contaminée par les jeux de pouvoir et d'argent, avec une galerie de personnages bien plantés dans les archétypes. Donc on retrouve le père bourgeois, la mère dépressive, et puis des frères et des sœurs qui sont nourris par la rancœur et la haine. Le début d'ailleurs évoquerait presque un festin en mode mineur, mais bon, un festin grossier sans enjeu qui met rapidement la puce à l'oreille au spectateur. Parce qu'en insistant en fait sur la fortune du patriarche, on se doute que les agresseurs ne sont pas là par hasard et on en vient même à soupçonner certains membres de la famille de pas réellement être innocent.
Enfin, il y a aussi une fausse piste, hein, parce que
oui, il y a une fausse piste, mais
parce que lui, il est directeur du marketing d'une entreprise qui travaille pour avec les militaires, donc on peut supposer aussi, voilà, que c'est un règlement de compte, oui. dont ne sait quoi.
Mais moi, j'y croyais pas trop quand même. Hein.
Oh, on te la fait pas.
On me la fait pas. Bon, après, c'est assez ludique et référentiel. Urnext peut se voir en fait comme un film d'horreur plaisant, un jeu de massacre et grattignant la sacro-sainte famille. Il faut voir la scène, une scène de repas comme ça où ils règlent leur compte, ils font la prière. Enfin, bon, c'est assez jouissif quelque part. Mais à mon avis, en fuyant un potentiel inquiétant mis en place dans un prologue assez formidable, les auteurs de slasher, ils minimisent en fait tout suspense. Rien ne touche vraiment dans cette farce macabre qui, en plus, à mon avis, est assez mal écrite, parce qu'il faut vraiment avoir jamais vu de film d'horreur pour pas vraiment deviner les motivations des personnages. Bon, c'est pas une purge, je dirais juste un film de genre divertissant, mais superficiel, et porté par une mise en scène quand même un peu agaçante, surtout dans son utilisation pénible de la caméra à l'épaule, oui. Qui minimise là beaucoup... beaucoup de l'attention, c'est-à-dire que le film ne prend jamais vraiment la mesure des lieux dans lesquels l'action se joue. Et pour moi, un film d'horreur, c'est avant tout aussi une histoire d'environnement, de cadre, et là, ça pêche énormément. Voilà. Mais bon, ça, je pense que le cinéma d'épouvante, le meilleur au moins pour moi, est un champ d'expérimentation en termes de mise en scène, parce que généralement, les sujets ne sont pas toujours très intéressants, et là, finalement, ni le scénario, ni la mise en scène n'est vraiment palpitant. Enfin, il n'y a rien de vraiment palpitant. C'est assez amusant, c'est assez rigolo, mais ça dépasse pas cet argument, en fait.
Oui, je pense que c'est décevant. Le scénario l'est complètement. Après, ils auraient pu jouer sur intérieur-extérieur. Alors, on voit un peu l'extérieur, mais justement, comme les assaillants viennent de l'extérieur et qu'on voit très peu l'extérieur, ils auraient pu s'abstenir carrément de montrer l'extérieur. Alors que c'est pas le cas.
Il y a aussi une autre, là où je pense que le film est maladroit, c'est qu'il y a aussi une hésitation sur le plan graphique où pendant toute une partie, ils te font... les meurtres sont filmés plus ou moins en hors champ, et puis d'un coup on a des meurtres, des trucs gore, notamment une scène avec un mixeur qui est rigolote, mais qui semble complètement hors propos du film. Enfin, il y a comme ça un truc où le réalisateur sait pas trop quel camp choisir entre le film sérieux et la farce. Il y a une hésitation comme ça qui fait que le film passe pas, en fait.
C'est interdit au moins de 16 ans quand même, hein, parce qu'il y a suffisamment de scènes avec de l'hémoglobine pour l'interdiction. You Are Next, ça continue de passer, donc au Gaumont Multiplex.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Albert Dupontel était en forme, mais c'est pas tout le temps le cas. On l'a rencontré hier avec Marine, on a passé plutôt un bon moment avec le réalisateur français qui... qui sortira son prochain film 9 mois ferme, donc au mois d'octobre. Alors on a parlé effectivement de sa nouvelle comédie, mais aussi on a parlé du cinéma, des gens qu'il peut aimer. C'est même lui spontanément d'ailleurs qui en a parlé. Albert Dupontel qui parle de cinéma avec des extraits. Alors j'ai mis du Bernie et puis quelques extraits de Le Vilain.
Coucou.
Bonjour. Excusez-moi de vous déranger.
Au début je voulais faire un film en anglais. C'était régulier, mais ayant dit, un échec en anglais voyage plus qu'un succès en français. Ce qui est malheureusement est vrai et traduit l'impérialisme culturel de la langue anglaise. Et je vois une parenthèse d'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas longtemps que quand les Américains ont choisi une langue officielle, ils hésitaient entre l'anglais et le français et l'anglais a gagné à une voix. Donc on n'est pas passé loin de faire carrière à Hollywood. Donc là, je referme la parenthèse. Ceci dit, j'aimerais bien savoir le nom du mec qui a voté contre nous. Et ça complique beaucoup, beaucoup notre tâche. J'ai une super liberté, c'est parce que j'ai eu peur de la perte que j'ai laissé tomber le projet en anglais. Donc je remercierai toujours ma culture de m'offrir cet espace de liberté. Mais il faut reconnaître que les films en anglais voyagent quand même beaucoup plus que les films en français. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est quelque chose qui se passe. Et c'est clair que les influences que j'ai eues au milieu des années 80, j'avais 20 ans, j'étais étudiant en médecine, et j'ai vu à l'époque les premiers films des frères Cohen. J'ai vu Le Grand Terry Gilliam, qui m'honore de sa considération. J'ai vu Le Brésil de Terry Gilliam, ça a été un événement. Je l'ai vu 3 fois dans la semaine. Il y avait, dedans, ce film, il y avait tous mes rêves, tous mes cauchemars. Et ce cinéma-là, extraverti, stylistique, baroque, m'a beaucoup, 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 beaucoup frappé. J'étais cinéphile, je suis devenu cinéphile grâce à ce cinéma.
T'aurais pu me dire ça un peu plus tôt, hein.
Je me sens un peu décalé par rapport
ce qu'on appelle le cinéma français, même si les films de Blier sont légendaires et m'ont beaucoup marqué aussi, j'ai plus d'affinité avec certains films que je vois en langue anglaise que des films de langue française. Voyez.
Tu ne respectes rien, tu es une parfaite ordure.
Je suis coproducteur délégué sur les films. Quand j'ai fait Le Vilain, j'ai hypothéqué ma maison.
C'est bien, il est un bon garçon.
Enfin, j'ai été loin pour pouvoir avoir la liberté totale de faire ce que je voulais. J'ai fait une société. Là, je me suis associé à quelqu'un qui, en fait la vraie production du film. Mais j'ai une liberté de dire, voilà, je prends pas de sous, mais je veux 7 mois de montage pour pouvoir faire ce que je veux. Et ce que je racontais quand j'ai fait le petit tour de France avec mes Blu-ray de montage, ça, je pense pas qu'une production traditionnelle m'aurait laissé le faire. Vous voyez, donc comme là, je suis mon propre patron, bah, j'assume ou l'enthousiasme ou le rejet des gens, mais en tout cas, c'est vraiment de ma faute, le film. Voilà. Je suis pas sûr qu'en langue anglaise, ça pourrait rester de ma faute. Il y a beaucoup trop d'intervenants qui sont arrivés à un moment donné, ne serait-ce que pour pouvoir engager ces acteurs qui sont des stars. Le budget grimpe et vous avez beaucoup d'investisseurs qui ont leur mot à dire et là vous perdez votre liberté. Vous êtes forcé de vous justifier. Et je veux pas avoir à me justifier pendant mon travail, c'est pas possible.
Je sais pas ce que tu vas chercher là, vraiment.
Des fois, les acteurs sont beaucoup plus vrais dans l'improvisation que dans ce qui est prévu. Hein. Faut savoir. Le fameux You Talking to Me de Niro est une improvisation.
You talking to me? You talking to me? Talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to?
Qui était prévu dans le scénario, le scénariste, pardon, Paul Schrader, avait mis dans le scénario ad libitum pour l'acteur. Et il y a un interview célèbre de Scorsese qui dit que ce jour-là, la production le poussait à finir parce qu'ils étaient en train de dépasser. Il a réussi à imposer une heure de plus. Et c'est pendant cette heure que De Niro, improvisant comme indiqué dans le scénario, a trouvé ce fameux You Talking to Me, qui est une pure invention. Mais aucun auteur, aussi génial soit-il, peut trouver cette phrase-là. Parce que, par contre, De Niro peut trouver parce qu'il est bien dans l'état, et par son talent et par le conditionnement de Scorsese. Vous comprenez ? Donc, à une échelle, on va dire, plus albanaise, en l'occurrence en France, le procédé marche pareil. On met les acteurs dans des conditions. Moi, j'ai passé un petit peu de temps avec Mouchkine, elle fait que ça, quoi. C'est que des impros et elle nous fout dans un état. Et les choses qui sortent des fois sont mieux que ce qu'on aurait pu écrire, même un auteur doué.
On veut moins malin maintenant.
La plus grande admiration que j'ai en fait dans ce métier, c'est pour les auteurs qui sont les vrais héros de notre temps. Depardieu,
qui ça,
quand il a vu ses multiples récompenses pour Cyrano, avait été très honnête en disant je tiens à remercier monsieur Rostand.
De quoi s'agit-il?
Ça m'amuse pas du tout que d'avoir fait que 5 films. Je pensais, quand j'ai commencé, il y a 50 ans, j'en aurais fait 10 ou 15 ou 20. Et Billy Wilder en a fait 30. Woody Allen, j'en parle pas. Donc je crois qu'il continuera à faire des films même mort. Donc voilà, je pense que dans le fait d'être un auteur, un vrai, il y a une prolixité quand même, il y a une évidence, il y a une technique, il y a une maîtrise que j'ai pas du tout. Il y a pas longtemps, j'ai vu un documentaire de Billy Wilder. Et qui, c'est Volker Schlendorf qui interroge Billy Wilder. Je vous recommande, c'est vraiment super, ça dure 2 heures. Et tout le temps où Schlendorf parle de succès, de femmes, d'argent, Billy Wilder était très décontracté. Il décachette son courrier, il plaisante, il raconte des blagues, etc. Et tout d'un coup, Schlendorf parle de l'écriture. Et là, Billy Wilder se pose et lui dit c'est 6 mois de souffrance et de transpiration. Et là, il rigole plus du tout et on sent qu'on met le doigt sur un truc sensible. Il a quand même fait 30 films, dont au moins 10 chefs-d'œuvre. Donc ce qui prouve que même à ce niveau-là, c'est très compliqué pour lui d'écrire. Il a d'ailleurs fait un petit sketch avec son copain Al Diamond. Et il dit, je vais vous montrer ce que c'est que d'écrire. Et on voit Al Diamond devant une machine à écrire avec une feuille blanche, strictement immobile. Et en arrière-plan, on a Billy Wilder allongé sur un canapé avec un tue-mouche, vous voyez, comme ça, qui se passe franchement 3-4 minutes dans un silence total. Billy Wilder se lève, s'approche de Al Diamond et lui dit, je pense que le frère... C'est pas une bonne idée. Il va se rallonger et Al Diamond dit je suis d'accord avec toi. Et c'est tout, ça coupe là. Et donc ils disent que c'est compliqué même pour eux à deux, très doués, c'est difficile. Donc je vous laisse imaginer, moi tout seul dans ma cuisine avec mes chats.
Je possède un chat, Momo. Momo est un chat depuis de nombreuses années, mais c'est également un félin. Voilà, c'est Momo. Voilà.
Ça me fait rire, ça marche bien. C'est Cinérama, c'est une émission plaisante.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Sur Divergence FM.
Alors, Tip Top était-il plaisant ?
Et Tip Top porte assez mal son nom, parce que ce n'est pas vraiment Tip Top, disons-le tout de suite. Deux inspectrices, pour le moins singulières, débarquent dans la banlieue de Lille, bien décidées à résoudre une enquête sur le meurtre d'un indique impliquant la police locale et la communauté algérienne de la ville. Autant le dire tout de suite, le tout n'est pas franchement explicité de façon limpide pour le spectateur, on s'y perd un petit peu. L'une, Isabelle Huppert, est une psychorigide à forte tendance sadomasochiste, et l'autre, Sandrine Kiberlin, lui voue une admiration sans bornes et possède un fort penchant pour le voyeurisme compulsif.
Je suis très contente de travailler avec vous.
Si votre service n'a rien à se reprocher, tout ira bien comme les serpents.
Je n'ai pas peur de la police des polices.
Vous croyez que ça va faire avancer les choses, que vous soyez là toutes les deux armées et tout ça?
Virginie Benhama, elle est naïve. Elle est même un peu idiote.
Je pense qu'elle a compris des choses, mais qu'elle ne se passe là, oui. Comme vous.
Capitaine Robert Mendez, pour vous servir.
Les deux femmes qui viennent de chez vous, j'arrive pas à les cerner.
Comportement privé, contraire à l'éthique de la police.
Est-ce qu'il y a dans votre dossier? Vous voulez savoir, c'est ça? J'aime regarder les gens en douce. Je suis une grosse, grosse metteuse, hein. C'est grave, hein.
Salut, dans cette affaire, je vous faisais la petite fouine. Fouinez, fouinez, fouinez.
Quelle histoire! J'aime parler, mais j'aime le silence aussi.
Le film repose en réalité, entièrement sur ce binôme de comédiennes et sur la relation de leurs personnages, à tel point que les rebondissements ne s'avèrent guère importants et que le film d'ailleurs se termine même sans donner de dénouement à l'enquête. Alors si le choix des actrices est relativement judicieux, quoique peu audacieux, Sandrine Kiberlin et Isabelle Huppert restant fidèles à leur habituel rôle de godiche pour l'une et de castratrice pour l'autre, on demeure un peu sceptique quant à leur supposé potentiel comique. Kiberlin est impeccable comme à son habitude, mais Huppert, qui demeure le véritable centre du film, peine à déclencher les rires escomptés, ce qui est quand même assez problématique pour une comédie. La faute aussi probablement à un humour volontairement absurde et décalé qui s'avère très poussif et fait inexorablement tomber chaque scène à plat. Car le principe de tip-top est de reposer sur la rupture de ton permanente, les scènes s'enchaînant sans transition, passant d'un registre à l'autre, changeant de décor sans explication, perdant totalement le spectateur au final qui n'a que faire de ce parti pris sans intérêt narratif. Rupture de ton également pour les comédiens, puisque le trio central est confronté à un panel d'acteurs non professionnels qui s'avère extrêmement mauvais. On assiste donc à une dualité pas très heureuse qui voit d'un côté les vrais comédiens jouant juste, de l'autre des modèles, comme les appelait Robert Bresson, qui annonnent leurs textes, comme on récite des tables de multiplication, qui peinent à se mouvoir dans le cadre et qui se rappellent à nous à coups de systématiques regards caméra. Le tout baigne dans une lumière volontairement froide, sale et assez connotée années 70, on peut ne pas dire tout simplement moche en fait. Alors il est vrai que dans la...
Non, ça veut dire que les années 70, les images étaient moches, mais bon.
Que oui, enfin disons que dans le style du polar, l'image était souvent comme ça, froide, sale et pas très jolie en fait.
Genre donc, série noire quoi, enfin tu vois.
Je peux continuer sinon ouais. Ça vous dérange pas ou... Mais il est vrai que dans la masse des comédies bien pensantes traitant des relations franco-algériennes et de l'immigration dont on a été abreuvé depuis un an quand même parce qu'on nous a pas raté, Tip Top fait figure d'ovni et a le mérite d'aborder la question sous un angle original. Mais le rapport aux personnes arabes du film, qui cristallise véritablement en fait tous les enjeux, finit par vite devenir presque malaisant. Le film étant basé en fait sur les perversions des deux inspectrices, le fait que les personnages soient tous obsédés par les arabes, comme le dit en fait lui-même le réal, finit par revêtir un sens assez malsain, puisque cela est au final assimilé à une perversion en plus. Un discours ambigu donc pour un film qui ne sait jamais sur quel pied danser et qui nous fait sombrer assez rapidement dans la perplexité et l'ennui le plus profond. Alors, il y aura tout de même quelques petites idées à sauver dans le film, comme par exemple l'apparition de Samina Seri en mari de Isabelle Huppert. Quelques toutes petites idées qui laissent entrevoir comme ça ce qu'aurait pu donner Tip Top s'il avait été un peu moins radical dans son décalage. Difficile donc de classer ce nouveau film de Serge Bozon, qui est lui-même finalement inclassable en fait dans le cinéma français. Il a été critique pour les Cahiers du cinéma. D'ailleurs, c'est la seule presse à avoir encensé le film. Il a été acteur, scénariste, réalisateur. Et d'ailleurs, il a coécrit ici en fait pour la quatrième fois avec Axel Roper, qui est aussi critique et réalisatrice. Ce qui augure d'ailleurs d'une guerre fratricide, puisqu'elle sort cette semaine son propre film également. Alors, j'aurais aimé vous passer un extrait de l'interview de Serge Bozon que j'avais rencontré la semaine dernière. Pour un problème de matériel, la bande est apparemment inexploitable. Et c'est assez dommage parce que c'était quelqu'un de très intéressant et qui donnait vraiment envie d'aimer son film. Ce qui n'est pas le cas. Oui, parce qu'il en parle vraiment très bien. Et je pense que le fait qu'il ait été critique fait qu'il a vraiment une distance par rapport à son propre travail. Et il prend très bien les critiques, quoi. Donc...
C'est ça. Moi, je l'ai vu avec toi. Hein. Ça pourrait être tout à fait un film à thèse. La première séquence, de toute façon, c'est ça. C'est un type. Voilà, le personnage, un des personnages rentre dans un bar, il se fait bastonner, il a pas mal, il a aucun bleu, il arrive à se tirer d'affaire complètement. Enfin, le ton est donné. Et après, toutes les scènes, c'est que ça, que des choses qui sont complètement désamorcées, absurdes. Ça pourrait être fantaisiste.
Assez mal à l'aise aussi.
Mais en même temps, c'est pas vraiment fantaisiste. J'ai l'impression qu'il a tout écrit, mais qu'il a tout raté en filmant. C'est désespérant, quoi. Enfin, pour le cinéma. Après, qu'il soit produit, tant mieux. Mais c'est parce qu'il a beaucoup d'amis, quoi, dans le cinéma. Tant mieux.
Et lui est très content, en fait, de son propre film.
Bah
enfin,
oui,
voilà. Comme disait Churchill, le succès, c'est d'aller en échec, d'échec en échec, mais tout en gardant son enthousiasme. Donc, je pense que lui, c'est le cas. Hein. Il est sur la voie du succès. Il reste très enthousiaste. Mais je crois que ses films.
Non, après, c'est réjouissant.
Ils sont
en plus,
pas à la hauteur.
De voir Huppert. Enfin, moi, j'adore cette actrice, comme beaucoup. Kiberlin aussi. Enfin, en fait, il y a plein de petites scènes comme ça qui sont savoureuses. Mais dans un film qui est mal emballé. Enfin, c'est...
Et il y a François Damien aussi, dont je n'ai pas parlé.
Ouais. T'as bien fait.
C'est pas forcément utile, mais voilà, je le précise. Bref, vous n'êtes pas obligé d'aller le voir, mais ça passe au Diagonal.
Mais on peut le tenter quand même, voir...
Ou pas.
Alors, ça a été aussi un critique très éclair, hein, c'est-à-dire qu'il a très peu écrit, hein, malgré tout, dans les cahiers. Enfin, moi, en ayant lu les cahiers pendant des années, je peux te dire qu'il a peut-être signé quelques papiers, mais pas plus, quoi. Enfin...
Ah, il me semblait qu'il avait écrit, en fait, dans le dernier, mais je...
Non,
je me
trompe. De temps en temps, comme ça. Mais c'est pas un vrai critique. Enfin, un vrai critique, dans le sens où il a pas perduré dans la revue.
Eh bien, dès ce soir, on va passer la nuit. On va chercher dans tous les cahiers combien d'articles il a écrit. Cinérama va aller jusqu'au bout de cette enquête.
Cinérama.
Je vous demande une seconde, le temps d'installer le prochain film.
Et nous passons au dernier film de... Jodorowsky, c'est à toi maintenant.
Je vais en parler, puisque moi j'apprécie quand même globalement vraiment le travail de Jodorowsky. Hein, donc là, après un silence quand même de 23 ans, hein, son dernier film, Le voleur d'arc-en-ciel, qui était d'ailleurs complètement raté. Donc là, il revient au cinéma avec ce qu'on peut considérer pour moi comme un de ses films les plus personnels. Enfin, je pense qu'on peut parler d'Œuvre Testament parce que je ne pense pas qu'à 84 ans, il réalise d'autres films après. Enfin, ce n'est pas prévu. Donc, entre-temps, malgré tout, ce poète, il est philosophe, tarologue, thérapeute, écrivain et auteur de BD, notamment L'Incal, qui est quand même une BD culte. Hein. Donc, c'est lui. Donc, on ne peut pas dire qu'il chôme à côté. Hein. Et donc, Jodorowsky, là, il livre sans doute, je dirais, un film assez fou et étrange, hein, un truc qu'on dirait échappé un peu des années 70, autobiographique en partie, la danza de la realidad, donc mêle pour moi avec un bonheur variable, le surréalisme, le conte, le théâtre, la philosophie et le cinéma sur un mode très référentiel. On pense beaucoup à Amarcord de Fellini, un autre chef-d'œuvre assez barré qui est nourri par les souvenirs d'enfance. Bon, là. La force du film, c'est de nous surprendre quand même de séquence en séquence. Quoi. Il n'a pas peur du ridicule et il ose tout et n'importe quoi. Donc parfois, il touche le sublime, comme le moment où la mère, elle urine sur son mari pour le guérir de la peste. Ou l'idée que le père stalinien a les mains qui sont crispées parce qu'il n'arrive pas à tuer le dictateur chilien qu'il aimerait assassiner. Enfin, je trouve qu'il y a des idées assez folles. Alors, en contrepartie, cette invention, pour moi, elle est vraiment tachée d'un défaut majeur, c'est que le film baigne, je t'en parlais hier, hein, dans une esthétique que je trouvais très télévisuelle. Je trouve que le film, soit il manque de moyens, il manque d'ampleur, pour laisser libre cours à ses visions barrées. Moi, c'est vraiment le défaut que je vois au film.
Il y a certaines scènes qui sont, à mon avis, indigentes. Il n'y a pas assez de personnages. Il n'y a pas, notamment, la scène de la cabane là, dans le bidonville, qui n'est même pas un bidonville, l'incendie.
Oui.
C'est complètement. Il y a plein de petites scènes qui sont ratées, mais il y a plein de scènes que je trouve très, très heureuses et hyper fantaisistes. Et puis, symboliquement, il y a à chaque fois des scènes très symboliques.
Je pense que ces scènes-là, en fait, c'est un parti pris, un petit peu comme dans Dogville. Ouais, c'est un petit peu comme du théâtre filmé, donc oui, non, c'est normal qu'il n'y ait pas 150 personnes qui jouent la scène. Je pense que c'est fait exprès.
Je suis pas sûr, hein. Je pense que Jodorowsky, il a plus les moyens qu'il a eu à une époque, hein, quand il tournait La Montagne Sacrée. C'était, alors, je sais plus, je crois que c'est celui-là, c'est George Harrison qui avait produit le film. C'était un film qui était un peu dans le même style et qui était quand même assez plus baroque et aussi Santa Sangre, où il y avait même si on prend d'un point de vue visuel, il y avait un chef opérateur splendide. Enfin, il y avait un travail sur l'image, sur les mouvements de caméra, qui pour moi là est absent. Enfin, il y a un petit côté un peu plat j'aime le film, hein. Je trouve que malgré tout il y a tellement de scènes originales. Enfin, on est tellement surpris d'un moment à un autre, on ne sait pas ce qu'on va voir, que je trouve que du coup le film reste pour moi passionnant malgré ses défauts.
Après il y a le discours, hein, mais si on est habitué à Jodorowsky, mine de rien on n'est pas étonné, hein, parce que effectivement, enfin, c'est assez mystique. Voilà, la mort, la conscience, c'est la même chose. Enfin, tout est la mort finalement. Enfin, tout est mélangé. Après, on n'est pas obligé de suivre ça, mais je trouve que visuellement, par contre, il y a vraiment des belles choses, et c'est peut-être ça que ça peut nourrir. C'est que c'est un imaginaire qui est assez fort. Voilà, celui de Jodorowsky, quand même.
On peut passer un petit bout de la bande-annonce.
Se lo está tragando todo.
Todo lo que vas a hacer ya lo eres. Lo que buscas ya está en ti. Alégrate de tus sufrimientos. Gracias a ellos llegarás a mí.
Voilà, thème musical largement repris durant tout le film. Marine, tu n'as pas aimé ?
Non, j'aurais aimé, encore une fois, parce que voilà, je respecte vraiment les gens comme ça qui cherchent toujours à se réinventer, etc. Mais j'ai eu l'impression en fait d'être devant un spectacle de fin d'année à l'école primaire, quoi, où on regarde des gens déguisés et où on n'a pas le droit de sortir de la salle et on s'ennuie. Et je me suis tellement ennuyée. Alors le trio... entre le gamin qui joue un peu comme à la kermesse de l'école primaire, son père qui roule des yeux pendant 2 heures et qui hurle tout le temps, et la mère qui ne s'exprime qu'en opéra, c'était un supplice. C'était un supplice, vraiment, quoi. Oui, vraiment. Il y a quelques belles images, mais non, pour moi, c'est pas une réussite, même si voilà, la dimension autobiographique rend le film extrêmement intéressante. Et il y a des effets numériques aussi désastreux. Et j'estime qu'en 2013, on n'a pas le droit de faire ça. Donc on peut faire autre chose. On n'est pas obligé de passer par ça si on n'a vraiment pas les moyens. Parce que là, vraiment, les mouettes en numérique, c'est interdit de faire ça.
Il y a le feu aussi. Il y a les flammes,
le
qui ne sont
aussi,
pas les vraies
c'est
flammes. Mais bon,
c'est pour ça que je dis que là, il y a un vrai manque de moyens.
Oui, un manque de moyens. Même les acteurs, effectivement, n'ont pas été convaincants.
Mais il aurait pu détourner, du coup. Un petit peu comme quand les chars nazis rentrent dans la ville et que c'est en fait des Ford avec des cartons autour, comme un char. Justement, où ça fait assez théâtre. Là, c'est clairement fait exprès. Voilà. Il aurait pu trouver comme ça plein d'autres subterfuges.
Peut-être.
Voilà, bah oui, non, mais manque de moyens, ça c'est certain. Hein. On ne peut pas dire, sinon il n'aurait pas attendu autant de temps pour faire un film. Je pense qu'il peut aller voir Boson, c'est ça, pour trouver les petites ficelles qui lui permettraient de refaire un film, non ?
Ou Dupontel, sinon.
Dupontel, il a du mal, mais lui c'est dans l'écriture, oui.
Non, alors juste pour info, hein, Jodorowsky, il avait passé plus de 10 ans sur Dune, qui était réalisé par David Lynch finalement. Hein. C'était vraiment le film que Jodorowsky a toujours voulu réaliser, Dune. Et il en a réalisé une partie, très peu de choses. Et je crois qu'il y a eu un documentaire qui va sortir là-dessus. Je crois que c'est en fin d'année ou c'est prévu pour le début de l'année prochaine. Ça s'appelle d'ailleurs Jodorowsky Dune. Voilà. Bon, c'est pour l'information.
Ouais. Merci Manu pour ces précisions. La danza de la realidad, ça passe au cinéma Diagonal.
Cinérama sur Divergence FM.
Il passe aussi au cinéma Diagonal chaque jour que Dieu fait. C'est une comédie douce amère de Paolo Virzi. Le film avait fait la fermeture du Cinémed. Il est sorti la semaine dernière. Voilà. Alors, c'est l'histoire de Guido et d'Antonia qui vivent ensemble depuis quelques années. Lui est un érudit spécialiste des langues anciennes qui se retrouve à être concierge de nuit dans un hôtel. Et puis elle travaille sans envie chez un loueur de voiture. À l'occasion, elle joue de la musique dans les bars où seul Guido semble daigner l'écouter, au moins attentivement. Alors, ils sont heureux, et si ce n'était qu'ils n'arrivent pas, en fait, à avoir d'enfants, alors ils font des analyses, tentent des choses pour être fertiles, jusqu'à ce qu'ils rencontrent un éminent gynécologue, celui du pape, paraît-il, qui pourrait peut-être leur donner la solution. Ou pas. Chaque jour que Dieu fait est une comédie avant tout, un petit film sur un sujet douloureux, très bien mené par Paolo Verzi. Joie, découragement, déchirement et pas seulement du jeune couple donne l'occasion au réalisateur d'offrir une peinture sociale autant qu'une étude du couple sans jamais d'excès, mais plutôt avec finesse. C'est un film que je vous recommande.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
Et on passe à l'agenda et on reparle du Chili, mais cette fois-ci avec des choses un peu plus réelles, historiques. Le mercredi 11 septembre, donc c'est aujourd'hui à 19h30, au Diagonale, il y a 11 septembre 73, coup d'État au Chili, dans le cadre de la commémoration des 40 ans du coup d'État au Chili, donc le 11 septembre 73. Il y aura deux films de la réalisatrice Elvira Diaz. Et la réalisatrice sera aussi présente. L'entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Jeudi 12 à 19h45, toujours au Diago, Miele de Valeria Golino, qui était mention spéciale du jury œcuménique à Cannes en 2013. Et puis mardi 17 à 19h40, Mon âme par toi guérie de François Dupeyron. François Dupeyron sera présent avec son acteur et il sera aussi dans le cinérama prochainement.
Non, je voulais juste dire, parce que je ne peux pas faire une émission sans parler de Palma, qu'il est né le 11 septembre.
Ah, mais c'est merveilleux, ça.
C'était l'information de Palma de l'émission.
Et demain, et aujourd'hui, pardon, sort aussi le film de Michael Bay, Gain and Pain, que je vous recommande, mais que je n'ai pas eu le temps de chroniquer.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Ainsi s'achève ce cinérama. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être avec des interviews, en tout cas avec des films qu'on aura vus.
Et à suivre, l'émission 24 notes secondes sera consacrée aux films en Afrique. À la semaine prochaine.
Super. À la semaine prochaine. Au revoir.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.